Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonoresources.gouv.fr/collectivité.
BFM Business, la librairie de l'écho. Emmanuel Lechypre.
Bienvenue dans la librairie de l'écho, l'émission de BFM Business qui vous offre chaque semaine le meilleur de la littérature économique. Alors évidemment, pas d'émission sur les livres sans auteur. Ils seront nos invités dans la première partie de l'émission et puis nous retrouverons ensuite nos critiques attitrés, Jean-Marc Daniel, Christian Chavagneux pour leur coup de cœur et leur coup de gueule, nos chroniqueurs Eva Jaco, Benaouda Abdelhaim pour les livres d'ailleurs et les livres qui nous feront voyager dans le temps. N'oubliez pas notre compte Twitter, notre page Facebook. On démarre tout de suite avec nos invités. Comment appréhender un phénomène économique que les moins de 60 ans ne peuvent pas connaître, que ce soit au quotidien, dans les entreprises, sur les marchés financiers, dans les gouvernements et même dans les banques centrales? Je veux bien sûr parler de l'inflation. Alors quels sont ses ressorts? Comment la juguler sans éviter une catastrophe économique et financière? Quels nouveaux outils mettre en place pour réduire les grands déséquilibres qui fragilisent l'économie mondiale? Quel est le rôle exact de la liquidité au cœur de tout ce processus? Réponse avec nos deux invités. Jacques Delarosière, bonjour.
Bonjour.
Jacques, vous êtes, je le dis à chaque fois, le plus beau CV de la République. Vous avez été directeur du Trésor, directeur général du FMI, gouverneur de la Banque de France, président de la Banque Européenne de Reconstruction et de Développement. Vous êtes aujourd'hui membre de l'Académie des Sciences Morales et Politiques et vous publiez « En finir avec le règne de l'illusion financière » chez Odile Jacob. Pascal Blanquet, bonjour.
Bonjour.
Pascal, très heureux de vous recevoir. Vous êtes président de l'Institut Amundi, dont vous avez dirigé pendant 17 ans la stratégie d'investissement. Vous êtes aussi, ça va si je dis, un philosophe de la finance, hein ? Voilà, et vous publiez donc The Optimum Liquidity Theory chez Economica. Jacques Delarosière, je commence avec vous. Vous nous décrivez dans ce livre comment l'économie mondiale s'est financiarisée depuis 40 ans. Mais je voudrais que justement on parte du monde d'il y a 40 ans. Le monde qui est celui dans lequel il faut juguler l'inflation. Et je me faisais la réflexion, je me dis, mais au fond, sur Terre, il n'y a pas une personne qui s'est plus battue contre l'inflation toute sa vie que vous, Jacques Delarosière, en France dans les années 70, dans les pays émergents quand vous étiez à la tête du FMI, pendant la transition des pays de l'Est dans les années 90 quand vous dirigiez la BERD. Personne ne l'a fait autant que vous. Alors, de votre expérience, qu'est-ce que vous retenez? Qu'est-ce qu'il faut, de quoi il faut se méfier le plus quand on parle d'inflation?
Oui, je pense qu'il faut se méfier d'abord de la politique monétaire, parce que l'inflation c'est avant tout un phénomène monétaire. Alors on ne le comprend pas, on pense que c'est uniquement le prix du pétrole qui monte, et le prix des matières premières, et la guerre d'Ukraine, etc. Mais en réalité, derrière cette poussée d'inflation et ces phénomènes d'offres sur les matières premières, il y a une création monétaire qui a été, à mes yeux, excessive et qui s'est petit à petit propagée dans le corps économique et social. Et c'est cet excès de création monétaire qui finit par nous rattraper. Et elle nous rattrape avec l'inflation. Alors, c'est une théorie qui n'a pas cours aujourd'hui. On dit c'est le pétrole et c'est la guerre d'Ukraine. Et c'est en partie le pétrole et la guerre d'Ukraine. Mais c'est un phénomène plus profond. Et puis, il y a un deuxième facteur qui est structurel, lui, et qui touche à l'offre des économies. Et c'est le rétrécissement de l'écart qui existe entre la production potentielle, celle qui serait idéale et qui n'aurait pas d'inflation, et la production réelle. Cet écart, c'est réduit.
Donc ce que vous dites, c'est qu'en fait, l'économie mondiale, depuis 30 ans, vivait finalement en dessous de ses capacités,
oui.
Hein, avec du chômage, avec de la déflation, et que là, on commence à buter,
oui, on
ce
commence
soit
à buter.
En termes de main d'œuvre, de ressources naturelles.
Et donc, les causes de l'inflation sont plus complexes que simplement le pétrole et la guerre d'Ukraine.
Mais quand on entend des gens qui disent aujourd'hui l'inflation, c'est bien, etc., c'est bon. C'est à ça que je faisais appel quand je parlais de votre expérience de pire ennemi de l'inflation.
Oui,
c'est
non,
que
quand
vous l'avez vu dans les pays émergents, quand vous l'avez vu en France, pourquoi c'est néfaste l'inflation ?
C'est néfaste parce que ça tue l'économie, ça tue les revenus réels, ça appauvrit les populations, et en particulier les populations les moins riches. Et donc c'est une taxe qui ne dit pas son nom, qui n'est pas votée par le Parlement, qui est le résultat de beaucoup d'erreurs passées, et qui finit par être très régressive du point de vue social.
Alors, ce que vous décrivez dans votre livre, c'est vraiment la financiarisation du monde. Et ça commence quand même, puisqu'on parle de l'inflation, avec la façon dont on décide de la briser, votre ami Paul Volcker aux États-Unis au début des années 80. Là, c'est un peu le débat qu'on a aujourd'hui finalement entre inflation et récession. Et est-ce qu'il a raison à l'époque d'avoir une politique monétaire aussi violente?
Il a eu une politique monétaire violente parce que l'inflation était élevée. Elle était autour de 15% quand il est arrivé à la Fed. Et il voulait la casser. Et il a compris que les taux d'intérêt de l'époque, qui étaient autour de 8 à 10, étaient en fait des taux d'intérêt négatifs, puisque quand on défalquait 10 de 15, ça faisait moins 5 de taux d'intérêt réel. Et il s'est posé la question que, à mon avis, on ne se pose pas assez aujourd'hui, qui est de savoir si, avec des taux d'intérêt réels négatifs, très négatifs, plus négatifs qu'ils n'étaient il y a quelques mois, on peut juguler l'inflation. Il est arrivé à la conclusion que ce n'était pas possible. Et donc, il a fait une augmentation des taux nominaux impressionnante. Il les a montés de 10 à 20% et en très, très peu de temps. Et avec 20%, avec une inflation à 15, il avait 5% de marge et il a en effet cassé l'inflation. Mais il a aussi créé une récession.
Est-ce que ça n'est pas à ce moment-là, Jacques Delarosière, que commence la financiarisation de l'économie mondiale?
Mais oui, elle commence à ce moment-là, elle commence à la fin de Bretton Woods. Moi, je me rappelle, quand j'étais jeune fonctionnaire, j'avais qu'une seule préoccupation, c'est que le franc tienne sa position dans l'espace financier mondial. Et cette préoccupation a disparu à partir de 1971, quand Nixon a supprimé le régime des taux de change fixes et la convertibilité du dollar en or. À ce moment-là, plus personne n'était responsable de la valeur extérieure de la monnaie. Jacques Delarosière, petit fonctionnaire, il s'en fichait à partir de ce moment-là. C'était le marché qui régnait et qui fixait la valeur des monnaies. Et ça a été une très grosse erreur, parce que à partir de ce moment-là, on a dit « je peux faire ce que je veux ».
Eh oui.
Et je peux faire ce que je veux en empruntant de manière illimitée.
Alors,
d'où le bouquin.
Alors c'est ça, c'est-à-dire qu'en gros, on voit que dans les années 80, vous racontez très bien, finalement, on considère que le remède miracle à toutes les crises, c'est de la liquidité, de la baisse de taux d'intérêt, et à chaque fois de l'argent de plus en plus facile. Alan Greenspan a fait ça pendant... Vous pouvez dire que c'était n'importe quoi à l'époque. Mais il l'a fait, et du coup, on se retrouve dans cette économie. Alors, vous donnez le chiffre absolument hallucinant. Le bilan financier du monde,
c'est
McKinsey qui le...
Oui, c'est McKinsey qui l'a calculé.
C'est 18 fois le PIB mondial.
Oui, mondial.
Le bilan financier du monde aujourd'hui, c'est 18
fois.
Il a
augmenté le PIB, 3 fois, il a triplé depuis quelques années. Et c'est une sorte d'enflure phénoménale de la partie financière de l'économie.
Mais avec le consentement des banques centrales, Jacques
Delarosière. Oui, avec plus que le consentement, avec la collaboration active. Mais ce que je voulais souligner, c'est que McKinsey arrive à une conclusion qui est terrible, c'est que les deux tiers de l'activité économique mondiale vont vers la valorisation des actifs financiers, et un tiers va vers l'investissement et la valeur ajoutée réelle. Alors, avoir une économie qui, aux deux tiers, sert les 10% de la population qui peuvent, eux, bénéficier de cette enflure monétaire, c'est quand même une question sociale et politique majeure.
Vous avez une phrase, Jacques Delarosière, qui est sur les banques centrales. Vous dites, avant, les politiques monétaires visaient la stabilité. Aujourd'hui, elles visent la stimulation permanente.
Oui, mais c'est vrai. Mais la stimulation permanente, c'est un oxymore. C'est une absurdité. C'est comme si vous étiez dans une voiture et que vous disiez « je ne vais appuyer que sur l'accélérateur ». Alors, il vous arriverait très vite des ennuis. Et malheureusement, c'est une politique qui a été conçue comme ça. Et le vecteur de cette erreur, ça a été le fameux 2% d'objectif d'inflation. Parce que pour des raisons structurelles qui sont dues aux importations en provenance de Chine, avec des très faibles salaires, la démographie mondiale qui se prête difficilement à la croissance de la demande, avec ces phénomènes-là, l'inflation s'était calmée pendant des années. Et elle s'était calmée à un taux d'équilibre qui était à peu près de 1%. Et ce 1% n'était ni de la déflation, ni de l'hyperinflation. Et c'était un équilibre qui était ce qu'il était, et ouais, qui résultait des forces structurelles que j'ai évoquées. Et les banquiers centraux ont dit c'est insupportable, ouais, que ce soit 1%. Il faut que ce soit 2%. Pourquoi ? Parce qu'on a, prédit que ça serait 2%. Et c'est un chiffre arbitraire. Ça pourrait être 3, ça pourrait être 1, ça pourrait être ce que vous voulez. Et c'est un chiffre qui ne porte pas en lui l'optimisation de l'économie mondiale. Mais pourtant, on a dit, c'est insensé que l'inflation soit à 1%, puisque ce n'est pas notre théorie.
Ce qui est dangereux, Jacques Delarosière, vous dites, c'est qu'en fait, l'endettement, c'est l'illusion qui nous fait croire que nos excès sont normaux.
Ben absolument.
Et qu'en fait, plus grave encore, on compense des faiblesses structurelles et pas des accidents ponctuels par l'endettement.
Oui, tout à fait. On finit par croire que la création monétaire, c'est de la création de biens et de services, alors que ce n'est pas le cas. C'est de la valorisation que l'on crée.
Bon, comment ça se termine tout ça, Jacques Delarosière ? Ben, quand la fin de la récréation va-t-elle sonner ?
Elle a sonné. Maintenant, c'est l'inflation. Et les banquiers centraux sont obligés de tenir compte, après l'avoir nié pendant un temps, de la réalité du phénomène, parce que le phénomène est très important et il est réel. Ce n'est pas que le prix du pétrole, c'est aussi la réalité. Vous avez une inflation corps, c'est-à-dire celle qui est débarrassée du pétrole et des produits alimentaires, qui est à 6% par an, ce qui est très élevé. Mmh. Et ce qui montre que ce n'est pas seulement un phénomène d'offre de pétrole.
Alors, Pascal Blanquet, au cœur de votre livre, il y a la liquidité, qui est au cœur de cette économie financière qu'on vient de décrire. Alors, vous dites la liquidité, c'est facile à reconnaître, mais c'est pas facile à définir. Expliquez-nous ce que c'est.
Mais c'est vrai, c'est probablement le mot le plus utilisé sur les marchés, dans l'économie, dans les médias, et le moins bien défini, en fait, source de confusion importante. Il y a une version monétaire de la liquidité, des agrégats de monnaie, le bilan d'une banque centrale, la macro-liquidité. Il y a une approche de micro-liquidité par les structures de marché. Il y a une approche économique. Les classiques disent la valeur précède l'échange, et l'échange, c'est la liquidité. Elle est toujours là. Les néo-keynésiennes disent le contraire, en fait. La liquidité précède la valeur. C'est dans l'échange, et dans une certaine circularité des prix, qu'une valeur s'exprime, en fait, avec des phénomènes d'irrationalité, d'esprits animaux. Et puis enfin, il y a sur les marchés, dont je me suis pas mal occupé, vous le disiez, c'est non pas tant la monnaie en tant que telle, un agrégat de monnaie, que sa vélocité, en fait, hein, c'est-à-dire le nombre de fois que sont exécutées des transactions par unité monétaire. Et comme le hamster dans la cage, cette unité monétaire, elle peut tourner de plus en plus vite dans la sphère financière. Ça a caractérisé le précédent régime, qui était un régime de capital financier, caractérisé par une inflation du prix des actifs. Et elle peut aussi tourner, comme le hamster, dans la sphère réelle. Et c'est ce qui s'est passé. Le phénomène a été retardé dans ses origines monétaires, par notamment le rôle joué par la plateforme chinoise, des accumulations de réserves par les banques centrales asiatiques. Mais là, d'une certaine façon, ça a duré longtemps. Mais c'était finalement temporaire, et l'inflation ressurgit. Mon point, et je le développe dans le livre, c'est que j'apporte à cette approche, en fait, par la vélocité de la monnaie, un référentiel psychologique. Ce que je dis, c'est que il ne suffit pas que l'offre monétaire, ou disons le caractère accommodant des politiques monétaires soit là. Il faut que la vélocité de la monnaie accélère, et cette vélocité, elle dépend d'un référentiel psychologique, en fait.
Et en gros, vous dites qu'il n'y a pas que le niveau des taux d'intérêt qui compte. Ça, mais alors donc, c'est comment ça s'appréhende, ça, finalement ? C'est-à-dire, comment vous le mesurez quand la vélocité s'accélère, ça veut dire quoi ?
Mais si vous voulez, quand la vélocité accélère, il y a un référentiel psychologique, en fait, qui est, où joue profondément des phénomènes de mémoire, d'oubli, et où il y a un temps psychologique, en fait, qui est différent du temps physique. Par exemple, les périodes d'inflation sont des périodes d'accélération de la vélocité, avec une dilatation de ce référentiel psychologique où, dans les périodes d'hyperinflation, une minute, ça vaut une journée de temps physique.
Eh oui.
Et c'est du temps psychologique qui s'accélère au fur et à mesure que la mémoire de l'inflation revient. Inversement, un phénomène de bulle, au sommet d'une bulle, il n'y a plus que de l'oubli, en fait. Et donc, et d'ailleurs, la chute d'un marché, c'est un retour en mémoire d'un certain nombre de choses, en fait.
Je vous arrête là, Pascal Blanquet, parce que le moment qu'on vit est typiquement cet instant-là.
Oui.
C'est-à-dire qu'on est dans un moment où des gens qui ont moins de 60 ans ne savent absolument pas ce que c'est que l'inflation. Et donc là, psychologiquement, il y a beaucoup de choses qui vont se jouer.
Elles se jouent déjà, en fait. Hein. C'est un phénomène monétaire et psychologique, en fait. On a un point de départ, c'est un taux d'oubli maximal de l'inflation.
Ouais.
Et progressivement, une mémoire de l'inflation qui est reconstituée mois après mois, après que chaque mois tombe un chiffre d'inflation élevé, que les médias, les réseaux sociaux parlent. L'inflation est là quand on en parle, en fait. Hein. Et c'est un phénomène psychologique, en fait. Donc, c'est ça qui est en cours, en fait, et qui est en lien avec les anticipations d'inflation. On anticipe le futur comme on se souvient et on oublie. Il y a une profonde analogie qui est, et donc là, cette course de vitesse qu'évoquait Jacques, c'est une course de vitesse avec le retour en mémoire de l'inflation, qui a un lien avec les anticipations. Et par ailleurs, il se trouve que vous, moi, Jacques, on a en mémoire des banques centrales et des gouvernements, mais en particulier des banques centrales, qui, depuis 25 ans, n'ont été qu'accommodants, en fait.
Oui, mais c'est ça, Pascal Blanquet, qui est très intéressant, c'est que quand on voit le chemin parcouru intellectuellement par les banques centrales depuis 30 ans, je veux dire, il y a 30 ans, personne n'aurait pensé au taux négatif, au quantitative easing. On a l'impression, et c'est exactement ce que vous dites sur l'oubli total, c'est-à-dire que quand on entend le discours des banquiers centraux aujourd'hui, face à l'inflation, on a l'impression qu'on va devoir tout reprendre à zéro. C'est-à-dire qu'il va falloir inventer un nouveau discours, des nouveaux outils. On a l'impression de se retrouver plongé dans les années 70.
Oui, c'est... D'ailleurs, moi, en 2019, j'ai fait un article dans le Financial Times. Le titre était explicite. C'était The Road Back to the 70s, en fait. Il était un peu, un peu provocant, en fait. Je pense que le Covid est venu après et a accéléré, en fait, un certain nombre de tendances qui étaient là, en fait. Il y a beaucoup de points communs avec les années 70. Il y a quelques différences, en fait, mais oui.
Par quel canot, la liquidité, finalement, se transmet dans l'économie réelle, à l'inflation? Quand on regardait en fait les courbes de niveau de liquidité sur les marchés, les cours de bourse, on se disait en fait, on peut chercher plein d'explications, mais c'est la liquidité qui est reine, c'est la liquidité qui explique tout.
Oui, alors il faut distinguer la macro-liquidité de la micro-liquidité, c'est un des paradoxes de la liquidité, hein. C'est-à-dire qu'au même moment, vous pouvez avoir une expansion du bilan d'une banque centrale et une crise de liquidité de marché, lié à des structures de marché inadéquates, on l'a vu assez fréquemment. Pour ce qui nous concerne, en fait, on a des canaux, si vous voulez, qui sont allés, si vous voulez, moi je pense qu'on a eu 30 ans d'expansion monétaire, en fait, qui a nourri d'abord un canal de transmission vers les marchés financiers. Mmh. Parce que la liquidité, enfin, au sens monétaire, elle est d'abord injectée dans les marchés financiers.
Donc l'inflation, elle n'avait pas disparu, elle s'était déplacée.
Elle s'était déplacée puisque cette liquidité injectée dans les marchés financiers peut y rester bloquée, en fait. Il se trouve que par ailleurs, un certain nombre de facteurs ont retardé l'apparition de l'inflation réelle, en fait, en particulier le rôle joué par la Chine dans le système global. Ce rôle change et donc libère d'une certaine façon cela. Ensuite, ce sont des phénomènes de ce que j'appelais le hamster dans la cage, en fait. Hein. L'inflation est un phénomène autocorrélé, autovalidant, qui revient pas à la moyenne. Un banquier central allemand disait qu'une fois qu'elle a quitté le le tube de dentifrice, la pâte est difficile à remettre dedans.
Alors vous développez aussi, et c'est le titre de votre livre, Pascal Blanquet, la théorie de la liquidité optimale. Mmh. C'est quoi cette théorie de la liquidité optimale ?
La liquidité peut être vue comme ce qui vient se glisser entre le prix et la valeur, en fait. Parce que un prix, c'est pas la valeur, en fait. Et la liquidité optimale, c'est la liquidité qui permet au prix de rester dans un lien de cohérence, d'ordre rationnel, avec la valeur. Ce qui veut dire que lorsque la liquidité est trop importante ou va trop loin, eh bien, vous avez des prix qui se démarquent de la valeur, et c'est une bulle, en fait. Et une crise de liquidité, à l'inverse, c'est la disparition de la valeur, en fait, du lien à la valeur. On ne sait plus ce que valent les choses, en fait. Et donc c'est ce que j'appelle et c'est ce qui s'est passé finalement. Le phénomène de liquidité a disjoint dans le précédent régime, c'est un héritage en fait, un certain nombre de prix de la valeur.
Mais maintenant, Pascal Blanquet, que l'inflation revient, j'allais dire, quitte à nouveau Wall Street pour revenir vers Main Street, comme on disait dans les années 70. Concrètement, est-ce que c'est vraiment back to the 70s ou est-ce que compte tenu de tous les nouveaux canaux de transmission de la liquidité, je veux dire, les marchés financiers, l'organisation des marchés d'aujourd'hui, c'est pas celle des années 70. Est-ce qu'on peut dire vraiment qu'on est dans une situation comparable? Et ça m'amènera à une question que je vous poserai à tous les deux. Chers amis, quel conseil vous donnez aux banquiers centraux aujourd'hui? Jacques.
Ce que je donnerais comme conseil, c'est d'abord de regarder l'inflation en termes réels, c'est-à-dire les taux d'intérêt que l'on remonte à coup de 0,75 ou même de 1%, ce sont des taux qu'il faut les défalquer de l'inflation ambiante, qui est autour de 9%. Et vous avez donc des taux d'intérêt réels très négatifs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous offrez de l'argent à des gens, à des acteurs économiques, en leur disant, ça ne vous coûte, non seulement ça vous coûte rien, mais ça vous rapporte du 7%. Et c'est une tentation très grande. Et les banquiers centraux devraient regarder la valeur réelle des taux d'intérêt qu'ils produisent avant de dire qu'ils ont une politique très restrictive ou qui rentre dans le domaine de la neutralité. Aujourd'hui, quelle est la neutralité de la BCE? C'est d'avoir des taux nominaux autour de 1%, alors que l'inflation est à moins 7, moins 8. Donc, les conditions monétaires que les banquiers centraux sont en train d'épouser sont des conditions ultra accommodantes. Alors, on ne nous dit pas ça. Moi, je vous le dis parce que vous me le demandez, mais on ne le dit pas.
Mais aucun de vous deux ne reçoit l'argument quand même du choc d'offres exceptionnel lié à la crise sanitaire,
oui,
lié à la guerre en Ukraine,
c'est un élément.
Etc.
Alors,
pour moi, est-ce que l'inflation est durable? Oui, clairement. Et en particulier du côté de l'offre, au-delà des bottlenecks de la crise Covid, on a l'héritage d'un sous-investissement de 30 ans. Dans
donc
la vieille
vous êtes
économie.
D'accord tous les deux.
Dans la vieille économie.
L'output gap, il
oui.
est comblé.
C'est lié à ça. On vient d'un régime de capital financier, on va vers un régime de capital physique. Je pense que ça, c'est un grand tournant. Et parce qu'il y a des besoins d'investissement massifs, en lien notamment avec un certain nombre de biens publics, que sont la transition énergétique. Alors, est-ce qu'on a un vrai sujet d'inflation? Oui. Est-ce qu'on peut le régler? Probablement oui, en ayant une politique monétaire et fiscale, j'insiste sur fiscale, en fait, disons, de resserrement assez agressif.
Absolument.
Est-ce que c'est ce qui va se passer? Je ne crois pas. Je pense que nous ne sommes plus du temps de Paul Volcker ou d'Otmar Issing en Europe.
En Europe, ouais.
Je pense qu'il y a un consensus plus large de société qui va émerger pour un compromis en fait de policy mix, c'est-à-dire politique et monétaire et politique fiscale plus accommodant que les discours guerriers qu'on entend aujourd'hui laissent penser. Le prix ou disons la contrepartie, c'est la tolérance, à mon avis, qui va s'exprimer pour des taux d'intérêt, des taux d'inflation plus élevés en tendance, en fait. Je parle pas d'hyperinflation, hein. On voit même que les banquiers centraux eux-mêmes sont pas à l'aise avec un objectif à 2. Donc, je pense que c'est ce qui va se passer. Alors, est-ce que c'est les années 70? Probablement pas. Mais, en tout cas, des points communs et un nouveau régime qui verra à l'équilibre, en quelque sorte, la tolérance d'un niveau plus élevé d'inflation, une préférence pour la croissance nominale, d'une certaine façon. Et des taux d'intérêt plus élevés à l'équilibre.
Le mot de la fin, Jacques Delarosière, ce monde-là, il vous inquiète?
On a cru que des taux d'intérêt négatifs allaient favoriser l'investissement productif et on s'est trompé. Ça a détruit l'investissement productif, d'où les problèmes d'offres qui sont derrière tout ça.
Merci messieurs. Je rappelle vos deux ouvrages, Pascal Blanquet, The Optimum Liquidity Theory, passionnant, c'est aux éditions Economica. Et puis le livre de Jacques Delarosière, En finir avec le règne de l'illusion financière, de la part de l'homme qui a le plus combattu sur cette planète l'inflation tout au long de sa carrière. J'aime à le répéter, Jacques Delarosière. On se retrouve tout de suite pour la deuxième partie de l'émission.
BFM Business, la librairie de l'écho. Emmanuel Lechypre.
On se retrouve pour la deuxième partie de cette librairie de l'écho. Nous la clôturons comme de coutume avec nos chroniqueurs Benaoud Abdelhaim, notre globetrotteur Eva Jaco, notre bibliothécaire aujourd'hui qui nous fera voyager dans le temps. Mais tout de suite, on retrouve nos critiques attitrés. À ma gauche, Christian Chavagneux, éditorialiste et critique à Alternatives économiques. Et à ma droite, Jean-Marc Daniel, professeur émérite à l'ESCP Business School, le critique attitré de la Société d'économie politique. Alors, comme c'est le cas quand il y a un livre que vous jugez encore plus digne d'intérêt que les autres, nous ne discuterons que de ce livre-là aujourd'hui. C'est le livre de David Todd, Un empire de velours, l'impérialisme informel français au 19e, aux éditions La Découverte. Qui ouvre le bal, messieurs? Allez, Christian Chavagneux.
David Todd, qui c'est donc un économiste historien qui prend son temps à écrire des livres, parce que le dernier, ça fait une quinzaine d'années qu'il l'avait écrit, donc au moins pour écrire des ouvrages, il prend son temps. Il y a une quinzaine d'années, il s'intéressait à la première moitié du 19e siècle et il essayait de montrer comment une culture du protectionnisme s'était développée en France. Ouais. On reste au 19e siècle, encore, et cette fois, on va du début du siècle, en gros, jusqu'à la guerre de 1870, et il nous parle de l'impérialisme français. Alors, quand on parle impérialisme français 19e, on pense à la conquête de l'Algérie en 1830, toutes les conquêtes territoriales de la Troisième République, la colonisation. David Todd dit attention, au 19e, il y avait une grande puissance économique, l'Angleterre, industrielle, nous on ne l'était pas, et pourtant la France a su développer une sorte d'empire informel qui est passé par d'autres moyens pour pouvoir un petit peu dominer le monde, comme le faisaient les Britanniques à partir de l'industrie. La première chose que j'ai trouvée intéressante dans le livre, c'est de nous dire c'était une stratégie totalement assumée, totalement comprise par les économistes de l'époque. On retrouve l'un des protagonistes du livre de Francis Desmier, dont on avait parlé avec Jean-Marc, qui est le Saint-Simonien Michel Chevalier, qui était tout à fait pour développer ce genre d'impérialisme en s'appuyant sur des ressources économique, financière, plus que sur des ressources physiques, la force brutale, la colonisation. Les libéraux, que Jean-Marc aime bien, tout au cours de ce siècle, Jean-Baptiste Say, plus loin on aura Paul Leroy Beaulieu, sont tout à fait partisans de cet envahissement civilisateur, comme il disait, et même Paul Leroy Beaulieu parle de colonisation par les capitaux. Donc ils assument complètement cette forme de colonisation un peu soft qui passe par autre chose que la force. Alors, concrètement, c'est quoi cet impérialisme informel? C'est, le premier, il est économique, c'est la France devient le lieu où l'économie du désir est la plus forte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à ce moment-là, la France exporte tous ces champagnes vers le reste du monde. Ça veut dire que les soirées de Lyon retrouvent la grandeur qui a été la sienne quelques siècles plus tôt. Ça veut dire que les petits articles de Paris, comme on disait à l'époque, des produits de semi-luxe qui sont vendus partout dans le monde, s'exportent comme du petit pain. C'est-à-dire que la gastronomie et la prostitution française, considérée comme réputée entre guillemets, attire du monde. Donc la France devient
déjà le luxe et l'agroalimentaire,
une sorte de modèle.
Rien par... change.
Par l'économie du désir, et ça continue quelque part un petit peu aujourd'hui. Et puis, l'autre aspect, c'est la finance. Et là, la finance, c'est que David Todd nous tient le raisonnement économique suivant. Il nous dit, comme il n'y a pas vraiment de gros développement industriel jusqu'aux années 70, alors qu'en France, il y a beaucoup d'épargne, il y a de l'épargne inemployée, parce qu'il n'y a pas besoin de mobiliser beaucoup de capitaux pour faire du service ou du produit de luxe. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire de cette épargne? Eh bien, on va la placer dans les émissions souveraines des États étrangers. La France, dans la décennie 1860, c'est le centre financier mondial. Quand vous êtes un État partout dans le monde, vous voulez emprunter de l'argent, vous venez en France. Il se trouve que l'Empire ottoman, l'Égypte, qui servent les intérêts stratégiques de la France, comme par hasard, reçoivent beaucoup d'épargne. Donc il y a une sorte de mélange de politique et de finance qui fait que par la finance, la France va réussir à donc financer des États et à prendre quand même un petit peu de poids politique. David Todd nous dit 1870, puis la Commune, tout ça s'arrête et la France va passer à une autre étape de son empire qui est la colonisation telle qu'on la connaît après à la fin du siècle.
Jean-Marc Daniel.
Oui, alors je rejoins ce que vient de dire Christian. En fait, il va plus loin que 1870. Il dit bien que c'est 1880. C'est quand les républicains s'affirment. Il fait vraiment la différence entre la période entre 1815 et 1880 où son impérialisme est formel. Il insiste sur le fait que c'est un impérialisme conservateur. C'est-à-dire que la différence des républicains qui veulent envahir physiquement les pays pour leur apporter quelque chose, la civilisation, la France devient la référence de tous les pays conservateurs et actionnaire face au libéralisme anglais. C'est-à-dire que la France, même si effectivement le premier chapitre du livre parle des libéraux, d'ailleurs j'ai pas exactement la même lecture de Benjamin Constant et de Michel Chevalier que lui, et de Dominique Prat aussi. Enfin, je trouve qu'il y a des choses où il tire un peu l'interprétation qu'il fait de leurs écrits.
Ça, vous savez faire, Jean-Marc, en histoire, tirer l'interprétation de votre côté.
Je pense que de l'esprit de conquête de Benjamin Constant n'est pas exactement ce qu'il nous raconte. Et ça s'appelle de l'esprit de conquête et de l'usure passion, et donc c'est pas exactement ce qu'il raconte. Mais il y a trois chapitres absolument passionnants qui sont effectivement ces chapitres où cette France devenue le symbole de la réaction au niveau mondial fait triple constat. Le premier constat, c'est qu'elle ne peut pas être l'Angleterre parce qu'elle n'a ni la même marine que l'Angleterre, ni la même population. Ce qui montre bien, c'est qu'une des forces de la colonisation anglaise, entre guillemets, c'était de pouvoir projeter son surplus de population dans les territoires qu'elle annexait. La France n'avait pas de surplus de population. Le deuxième enjeu, c'est qu'effectivement, comme Christian l'a dit, elle avait un surplus d'épargne en revanche. Donc elle n'a pas projeté des gens, elle a projeté des capitaux. Et donc c'est un capitalisme financier. Et puis alors, il y a effectivement ce troisième élément qui est le bon goût. C'est plus que le désir d'ailleurs, il dit c'est le bon goût. Alors 20% des exportations françaises dans la période, c'est des soieries. Il dit voilà, et donc Lyon est l'espèce de centre mondial de toute une activité d'une soie qui n'est pas forcément produite d'ailleurs initialement en France. Il explique bien que la vallée du Rhône fournit une partie de la soie, mais qu'il y en a beaucoup qui est la matière première, et que ce qui fait la force de la France, c'est le passage de la matière brute à véritablement le bon goût. Alors là, il y a deux chapitres sur le capitalisme ostentatoire et sur le capitalisme financier qui sont passionnants, documentés, avec énormément de chiffres. Et il y a un chapitre sur l'Algérie qui est un peu à l'écart du reste du livre, qui est alors passionnant. Tu aurais pu faire un livre en lui-même, et dont la thèse du livre, c'est qu'en finalement, ça a été une erreur de bout en bout, l'histoire algérienne.
Ah ouais,
parce que il dit au début, on nous explique que l'Algérie a apporté beaucoup. Il dit pas du tout. Il y a une récapitulative de ce que la France avait. Alors dans la période sous revue, on peut après s'interroger sur ce qui s'est passé au XXe siècle. Mais dans la période sous revue, il montre bien. Voilà ce qu'on a versé en Algérie. Voilà ce que ça rapportait sur le plan fiscal. Et il dit ça nous a coûté. Et il dit ça nous a coûté en hommes, ça nous a coûté en capitaux, et ça n'a jamais été à la hauteur de nos espérances. Il cite un auteur en 1836 qui imagine l'Algérie en 1876. Et donc c'est une espèce de paradis. Et quand on revient en 1876, l'Algérie c'est un pays qui est encore largement en voie de développement, qui est assez dépendant de ce qui vient de la métropole. Et on ressort de tout ça un livre que... Alors on a comparé de Francis Démier, je trouve que le Francis Démier était plus cohérent dans la démarche.
Rappelez le Francis, ce qu'il y a dans
le Francis Démier situe sur l'histoire de l'idéologie et de protectionniste et libre-échangiste en France au 19e siècle, dont nous avons parlé, soulevant le même format qu'aujourd'hui, c'est-à-dire des livres importants. C'est un livre, donc je trouve que David Todd a quelques faiblesses d'organisation, mais effectivement, ces trois chapitres, l'Algérie, le capitalisme ostentatoire et le capitalisme financier, c'est des vrais chefs-d'œuvre.
Qu'est-ce qui change réellement finalement à la fin de la à la fin de la période, Christian.
Je vais dire juste un mot sur l'Algérie. Ouais. Pourquoi est-ce que David Todd est obligé de faire un chapitre sur l'Algérie qui est de la conquête coloniale au moment justement où il nous dit que c'est pas passé par la conquête coloniale? Parce que c'est le contre-exemple.
C'est le contre-exemple.
Et donc il est obligé d'y aller. Et ce qu'il nous dit, c'est que 1830, en fait, les Français exercent sans nul doute de la violence en arrivant sur le territoire algérien, mais l'idée, c'était de s'appuyer sur les élites locales et d'essayer de faire une sorte de gouvernance en laissant les gens localement gérer. Et parce que, bon, on connaît toute l'histoire d'Abdelkader, etc., ça fonctionne pas, et c'est parce que ça n'a pas cette volonté d'empire informel, y compris sur le territoire conquis, n'a pas fonctionné, qu'on est passé plus tard à la conquête vraiment pure et dure, et on a envoyé des gens, des soldats, et puis après c'est devenu le 20e siècle.
Où est-ce que ça a le mieux fonctionné, finalement ?
Mais non, ça fonctionne pas mal. Le seul véritable problème, c'est ce qu'on a dit, c'est 1870. Voilà. C'est la défaite de la France. Ça commence au Mexique. Il explique bien que l'expédition française au Mexique, je rappelle qu'effectivement, les Français vont soutenir Habsbourg pour devenir empereur du Mexique. Et puis, donc, entre la révolte locale, le soutien des États-Unis à la révolte, il finit par être fusillé, d'ailleurs, pour être arrêté et fusillé. Et en 1867, les Français quittent le Mexique. Il dit, à partir de ce moment-là, effectivement, l'aura de la France décline. Puis ensuite, il y a la défaite de 1870.
Et la Commune.
Et donc, la France, d'abord, cesse d'être le champion des réactionnaires, puisque c'est une république. Donc, ça angoisse les gens qui avaient pris l'habitude de se référer à la France. Et puis, les républicains ont une sorte de besoin de colonisation. Et ce qu'il dit bien, c'est que le colonialisme au sens territorial, c'est les républicains qui le font, parce que c'est Jules Ferry qui dit, voilà, moi je porte Voltaire, la civilisation, Victor Hugo, alors que sous les régimes précédents, notamment le Second Empire, il dit le Second Empire, c'est l'argent de Zola, c'est le capitalisme financier, moi j'apporte de quoi acheter les dettes publiques de la Roumanie et de l'Empire ottoman.
Et les républicains, est-ce qu'il y a derrière cette volonté de s'accaparer des ressources naturelles, des matières premières?
D'abord, il n'en parle pas. C'est après la période qui... Mais on ne peut pas dire ça, non, je ne pense pas. Parce que, enfin, juste à un moment donné, il parle du congrès de Berlin. Vous savez, le congrès de Berlin, c'est le congrès où on partage l'Afrique. Et donc là, il y a cette formule... Alors, il ne le dit pas dans le livre, mais enfin, c'est une formule célèbre. Bismarck aurait dit, faisant en sorte que les Français oublient sur les rives du Congo les rives du Rhin. Et donc, il y a une façon de les renvoyer vers l'Afrique en leur disant, voilà, c'est fini, vous n'êtes plus la grande puissance occidentale, donc vous allez être une grande puissance coloniale.
Christian, qu'est-ce qui vous a le plus surpris, étonné dans le livre de David Todd?
J'étais fasciné par l'érudition, parce qu'il y a la manipulation d'une masse de données, de lectures, de chiffres, et il arrive à bien se replonger dans les débats de l'époque, parce que généralement on relit évidemment, comme tous les historiens, souvent, on relit l'histoire en fonction de notre époque, et là, et c'est bien sûr, c'est aussi le cas, mais là il arrive à nous rendre le débat, les débats qui avaient lieu à l'époque par les économistes plutôt libéraux, parce que dans le bouquin de Francis Desmiens, on avait déjà compris que les économistes protectionnistes, entre guillemets, n'avaient pas beaucoup voix et chapitre sur le plan théorique, même s'il avait un peu plus sur le plan pratique, et là c'est pour ça aussi qu'il insiste beaucoup sur les libéraux. D'ailleurs, on apprend au passage que notre ami, entre guillemets, Michel Chevalier, avec quand même quelques petits relents de racisme dans la mission civilisatrice qu'il voulait permettre à la France d'exercer dans le reste du monde.
Il dit quand même qu'il emploie le mot race avec un sens qui n'est pas exactement celui que nous avons aujourd'hui. Juste pour ajouter une petite chose, je trouve aussi qu'il y a des commentaires de tableaux qui donnent une espèce de respiration dans le récit. Il commente des tableaux, notamment la visite d'une ambassade qui vient de Thaïlande, du Siam, chez Napoléon III, et donc il commente le tableau de Jérôme. Je trouve que c'est assez astucieux et ça s'inscrit bien dans le livre.
Merci messieurs pour ce compte-rendu enthousiaste et détaillé du livre de David Todd, Un empire de velours, l'impérialisme informel français au 19e, c'est aux éditions La Découverte. Allez, on retrouve Eva Jacquot qui nous parle du livre de notre regretté copain Bernard Maris sur Michel Houellebecq.
BFM Business, la librairie de l'écho, les livres d'hier et de demain.
Bonjour Eva.
Bonjour Emmanuel.
Allez, aujourd'hui, vous nous parlez d'un livre un peu particulier. C'est le livre qu'avait écrit notre copain Bernard Maris sur Michel Houellebecq, Houellebecq économiste.
Oui, exactement, qui paraît en 2014. Alors, selon Bernard Maris, Houellebecq, ce n'est pas un économiste, mais selon lui, ses livres, eh bien, décrivent les courants profonds de notre société. Bruno Le Maire les décrit également comme des sismographes de ce qu'est la société française d'aujourd'hui.
Alors, Bernard Maris, bon, il est économiste, hein, voilà, il intervenait sur nos antennes notamment, chroniqueur, écrivain. Pourquoi est-ce que Bernard Maris était fasciné par Michel Houellebecq ?
Eh bien, il dit de l'auteur que personne n'a comme lui l'intelligence du monde contemporain, qu'aucun écrivain n'est arrivé à saisir le malaise économique qui gangrène notre époque comme lui. Alors ce livre, Houellebecq Économiste, c'est un essai contre l'économie. Selon Bernard Maris, cette discipline vide et ennuyeuse. Alors le livre se divise en plusieurs chapitres. Il rapproche les théories d'économistes comme Joseph Schumpeter, John Maynard Keynes, Charles Fourier ou encore Adam Smith avec les textes de Houellebecq. Alors on retrouve aussi les grands thèmes présents chez Houellebecq comme le libéralisme qui est au cœur d'extension du domaine de la lutte, l'individualisme et le consumérisme dans les particules élémentaires, l'offre et la demande de sexe dans plateforme, mais aussi la peur, l'envie, le progrès ou encore l'obsolescence programmée qui traverse toute l'œuvre de Houellebecq.
Alors ce qui traverse aussi toute l'œuvre de Houellebecq, c'est cette critique du libéralisme notamment.
Oui, Bernard Maris parle à ce titre d'idéologie des individus libres luttant tous contre tous. C'est ce que Houellebecq décrit dans Extension du domaine de la lutte. L'entreprise est un écosystème dont le personnage essentiel est le cadre. C'est le royaume de, je cite, l'asservi volontaire. Il faut se battre pour y survivre. Et Houellebecq raconte justement le processus d'individualisation de ses héros dans ses romans.
Alors, Houellebecq, il reprend aussi la fameuse théorie de la destruction créatrice de Joseph Schumpeter.
Oui, en effet, cette destruction créatrice, elle fait régner la terreur sur les cadres et les salariés. Elle agit sur leur travail, mais aussi sur leur consommation. Bernard Maris dit d'ailleurs que la destruction créatrice, c'est l'essence du capitalisme.
Alors, il y a aussi quand même chez Houellebecq cette critique de la société de consommation. Ça, c'est un sujet aussi qui revient tout le temps.
Ah oui, c'est assez transversal. Houellebecq, justement, dépeint l'aspect puéril du capitalisme et les consommateurs infantiles. Le supermarché, il fascine complètement Houellebecq.
Totalement, c'est vrai.
Et je vous cite quelques lignes qui sont dans La possibilité du Nil. Donc, rien dans aucune autre civilisation, à aucune autre époque, ne pouvait se comparer à la perfection mobile d'un centre commercial contemporain fonctionnant à plein régime.
Houellebecq, très pessimiste quand même, mais on l'a vu dans son dernier livre faire finalement presque une éloge du ministre de l'économie, Bruno Le Maire. Est-ce que finalement, entre le Houellebecq lutte des classes du début et puis le Houellebecq fan de Bruno Le Maire, il ne s'est pas embourgeoisé un peu, Michel Houellebecq?
Alors embourgeoisé, je ne sais pas, mais c'est vrai qu'on peut dire qu'il s'est un peu apaisé. Parce qu'il passe de des particules élémentaires à finalement une éloge de Bruno Le Maire. Alors oui, en bourgeoisé et apaisé.
Merci Eva Jacquot pour cet hommage aussi à Bernard Maris que nous aurions dû recevoir dans la librairie de l'Écho pour ce livre. Peut-être avec Michel Houellebecq, ils auraient peut-être dû venir tous les deux, mais voilà, le destin, on a décidé autrement. Merci beaucoup, on retrouve tout de suite notre globetrotteur Benaouda Abdelhaim.
BFM Business, la librairie de l'Écho, les livres d'ailleurs.
Cher Benaouda, bonjour.
Bonjour.
Et on démarre notre tour du monde par l'Arabie Saoudite, Benaouda.
Oui, défi d'investissement affectant l'industrie du pétrole et du gaz. C'est une recherche saoudienne. Le PDG de Saudi Aramco, la compagnie nationale des hydrocarbures, a émis il y a quelques jours une mise en garde solennelle face au manque de capitaux injectés dans les infrastructures de ce secteur. Pour lui, le sous-investissement y est chronique à travers le monde, alors même que les alternatives aux combustibles fossiles ne sont pas suffisamment disponibles. Alors ce rapport publié au mois d'août par le CAPSARC, c'est le principal centre d'études pétrolières à Riyad, entend donner des éléments précis sur l'ensemble de cette chaîne de valeur. Deux analystes évaluent ici les investissements dans cette industrie à l'échelle mondiale. 26 milliards de dollars de plus cette année. Or, la projection présentée comme indispensable pour satisfaire la demande, c'est 140 milliards supplémentaires d'ici à 2025. Donc le rythme actuel paraît nettement en retrait. Et les auteurs définissent alors quatre défis essentiels à leurs yeux. À leurs yeux encore. Les incertitudes liées à des divergences sur les prévisions industrielles de long terme, une réglementation notamment autour de la gouvernance des compagnies devenue inadéquate d'après eux, en particulier pour les entreprises privées, je cite, qui sont plus promptes à succomber aux injonctions de couper dans l'exploration. Troisième point, la volatilité volatilité excessive des cours qui empêche de tracer des tableaux précis, et enfin les inquiétudes de plus en plus fortes quant au changement climatique. Hamid El Sadoun et Julio Arboleda font le constat du discrédit frappant ce secteur qui, toujours d'après eux, provient de fausses idées climatiques et sociales, pour ne pas dire sociétales, ce qui se répercute sur les investissements et en conséquence sur la production et la disponibilité de pétrole. Le risque inhérent aussi en termes de ressources humaines, c'est très intéressant. Attirer et retenir les talents techniques dans cette industrie pétrogazière devient un problème tout à fait majeur, y compris en Arabie Saoudite, où une enquête d'opinion présentée montre un intérêt des travailleurs désormais inférieur pour les hydrocarbures et la pétrochimie par rapport au secteur du tourisme, des télécoms, du BTP et même des énergies renouvelables, comme si la partie là aussi était pratiquement perdue, y compris chez le premier exportateur de pétrole au monde.
Le partenariat Russie-Iran, Benahouda, alors là, diagnostic clair, il n'y a pas de partenariat Russie-Iran.
Alors, certains analystes américains et européens accréditent ces derniers temps la thèse de la formation d'un axe tout à fait stratégique Iran-Russie, ce qui n'est pas pour déplaire au passage à Téhéran et à Moscou. Mais ici, l'économiste iranien Esfandiar Batmanrelich, basé à Londres, et qui veut prouver qu'il n'en est rien ou bien pas grand-chose d'un point de vue géo-économique. Il dirige la fondation Bourse et Bazar et son point de vue a cela d'instructif qu'il n'a pas un caractère militant dans un sens ou dans l'autre. Pour l'auteur, la méconnaissance des Russes du contexte économique et social iranien est restée tout à fait semblable, en fait, à la méconnaissance par les Européens. Quitte, eux aussi, à recourir au dénigrement systématique. Il cite à l'appui, entre autres, un entretien de l'ambassadeur de Russie à Téhéran, un quotidien iranien, où le diplomate s'énerve et brandit une importante créance impayée. Les échanges commerciaux en 2021 entre les deux pays ont, quoi qu'il en soit, atteint 4 milliards de dollars. Mais 4 milliards de dollars, c'est 3 fois moins que l'Irak, c'est 8 fois moins que la Turquie. Et on parle beaucoup de part et d'autre de résistance solidaire aux sanctions occidentales, sauf que la coopération industrielle et financière qui doit sous-tendre cette solidarité ne se met pas encore en place. À moins que l'accord préférentiel conclu en 2016 ne se transforme enfin en traité complet de libre-échange entre les deux pays, ce qui n'est pas encore à l'ordre du jour. Mais est-ce vraiment souhaitable, nous demande l'auteur, dans leur propre intérêt national, aussi bien à la Russie qu'à l'Iran. L'auteur en doute. Il pointe l'écueil d'une sophistication industrielle qui est en fait au même niveau. Il prend les secteurs d'automobile, de l'électronique grand public, de l'électroménager, qui sont orientés vers les marchés intérieurs et qui pourraient s'auto-détruire l'un l'autre. Ils sont par ailleurs concurrents frontaux dans un des domaines tout à fait clés pour les deux pays, c'est la pétrochimie, notamment vers les marchés asiatiques. Alors l'économiste iranien juge ainsi qu'il y a encore un manque de confiance réelle, une conscience culturelle mutuelle insuffisante, et puis des incitations à travailler ensemble qui ne sont pas là.
La politique peut dire oui, mais en tout cas, l'économie dit
c'est
non.
C'est une autre affaire.
Oui, absolument. Ah là 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 là, les quelques élus, nouveau regard sur les investissements directs étrangers européens en Chine, et Dieu sait si c'est de plus en plus compliqué d'investir en Chine.
Tout à fait. Alors, le ministre allemand de l'économie, qui vient d'accueillir une réunion ministérielle du G7, a parlé de mettre fin à la naïveté envers la Chine. Alors, voici pour l'intention politique, une fois encore, et quant aux faits économiques jusqu'ici, on peut se pencher avec grande utilité sur cette étude que sort Rhodium. Rhodium, c'est un fournisseur de recherche américain très bien implanté et de très longue date en Chine. Et ses bases de données y font tout à fait référence. Il en ressort qu'une poignée seulement de grands noms industriels allemands mènent en fait les flux d'investissement direct étrangers européens vers la deuxième économie mondiale. Entre 2018 et 2021, BASF, le chimiste, Daimler et Volkswagen, les constructeurs automobiles, ont représenté en tout le tiers. Alors, il va se révéler difficile maintenant de réduire la voilure. En une décennie, on apprend aussi que l'Allemagne est passée de 34 à 43% des IDE de l'Europe en Chine. Donc, on est loin de la naïveté dont parle Robert Habeck. Si on élargit aux Pays-Bas, au Royaume-Uni et à la France, on est là pas loin de 90% de ce qui provient d'Europe. D'accord. Donc là aussi, c'est très concentré. Et ça tourne toujours davantage autour de 5 secteurs seulement. L'automobile, l'agro-industrie, la chimie, la grande consommation et la pharmacie biotech. Agatha Kratz et ses collègues mettent aussi en exergue deux phénomènes. Le gel de tout nouveau grand projet industriel européen en Chine depuis le début de la pandémie. Et puis, une désaffection croissante de la part des PME européennes. Elles envisagent le risque d'investir en Chine avec nettement moins d'entrain qu'auparavant, et c'est documenté ici. Les experts de Rhodium entrevoient aussi un hiatus croissant entre les sièges sociaux en Europe et puis leurs unités opérationnelles en Chine. On ne pense pas de la même manière.
Merci beaucoup, Ben Aouda Abdelhaïm. Allez, c'est l'heure de nos ultimes choix.
BFM Business, la librairie de l'écho, les livres de la dernière minute.
Jean-Marc Daniel, quelle est votre ultime sélection pour aujourd'hui ?
Eh bien, ce mois de septembre, où la rentrée universitaire est à l'ordre du jour, je recommande le livre d'Emmanuel Combe, Précis d'économie. On en est à la 16e édition, et donc chaque édition est complétée, actualisée. C'est un livre de référence, je le dis avec d'autant plus d'amitié pour Emmanuel Combe, que j'ai moi-même fait un livre concurrent, et que il a largement dominé le marché par rapport au mien. Donc, et je le comprends, parce que c'est vraiment un livre remarquable. Donc,
se faire plaisir vous honore, Jean-Marc.
Voilà. Donc, achetez mon livre, mais n'hésitez pas à acheter celui d'Emmanuel Combe.
Mais ça s'adresse à qui, concrètement ?
Alors, ça s'adresse essentiellement aux étudiants de premier cycle.
D'accord. De premier cycle économique,
de licence ou de prépa aux écoles de commerce, et puis aux curieux, parce que c'est écrit dans un français très agréable.
Christian Chavagneux, votre dernier.
Une grosse enquête de l'ONG Global Witness. Vous savez que la Chine est le premier producteur de ces fameuses terres rares dont on a besoin pour nos produits électroniques, pour relais éoliennes aussi, et c'est malheureusement produit dans des conditions environnementales désastreuses. La Chine a fermé plusieurs mines pour des raisons environnementales, mais elle reste, elle veut conserver son leadership. Où est-ce qu'elle va chercher les métaux ? Eh bien, c'est ce que montre cette enquête. Elle va dans l'ex-Birmanie, le Myanmar actuel, et exploiter ces terres rares dans des conditions totalement illégal et désastreux sur le plan social et écologique. C'est une enquête que vous trouvez sur le web, extrêmement bien illustrée, richement illustrée. Ça vaut la peine d'aller regarder.
Et oui, c'est le problème des terres rares. C'est pas qu'elles sont rares, parce qu'il y a plein d'endroits où il y en a, mais c'est les conditions d'exploitation.
Exactement.
Que beaucoup de pays ne veulent pas accepter. Bah, moi, j'ai choisi un livre, alors qu'il va peut-être vous dérouter. L'économie et les sciences sociales selon Picsou. Voilà, c'est écrit par Thierry Rogel, c'est aux éditions de l'Étudiant. Alors attention, c'est pas un cours d'économie en BD pour les enfants, etc. Non, c'est plutôt un décryptage de l'univers Picsou, comment finalement cette caricature du capitalisme constitue un peu une remise en cause de l'Amérique urbaine et du capitalisme des 30 Glorieuses. Et en fait, je me suis dit, parce que moi quand j'étais petit, on avait le choix entre Pif Gadget et Picsou. Alors on disait, oh, Pif Gadget, c'est les éditions Vaillant, c'est les communistes, etc. Et donc,
c'était vrai.
Oui, c'était vrai. Sauf que ce qu'on découvre à la lecture de l'économie, ou ce qu'on conclut de la lecture de l'économie et les sciences sociales selon Picsou, c'est que le vrai message anticapitaliste, en fait, il n'était pas dans Pif Gadget, il était plutôt dans les aventures de Picsou, avec cette caricature de capitaliste. Et de capitalistes aussi, et de riches. Voilà, c'est la fin de cette librairie de l'écho. On se retrouve la semaine prochaine. Et d'ici là, bien sûr, bonne lecture.